Vous êtes à quel étage ?
Arrêt à tous les étages, une émission présentée par TK Elevator sur Radio Imo.
Salut à tous, écoutez, arrêt à tous les étages, voilà, vous allez où aujourd'hui ? On va vous dire où nous allons aller, puisque cet étage est réservé sur l'innovation, inutile de vous dire les amis, qu'on va parler d'intelligence, innovation, où ? Dans la construction neuve, et oui, la dent creuse pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça instruit pas beaucoup les permis de construire en 2021, ça a pas beaucoup instruit au début 2022, on va espérer que la tendance s'inverse, mais on va quand même parler de la nécessité de la construction neuve, et surtout de toute l'imagination, l'innovation autour de la construction neuve, et on a souhaité, pour ce numéro de Arrêt à tous les étages, avec nos amis de TKE Elevator, de dédier cette émission à l'innovation avec deux personnes, notre complice de toutes nos émissions qui est présent quand il le peut et qui essaye d'être le plus souvent là avec nous, le président de TKE Elevator France, Emmanuel Paris, est avec nous.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va Emmanuel ?
Très, très, très grande forme.
Merci d'être avec nous, Emmanuel, pour parler de ce sujet. Un promoteur comme on les aime, vous le savez, j'en ai beaucoup parlé à la télévision. J'avais titré d'ailleurs la tour élitiste, la tour qui fait gagner en pouvoir d'achat. C'est-à-dire que plus vous habitez et plus vous gagnez en pouvoir d'achat, c'est très intéressant. On avait fait un beau dossier, c'était quelqu'un que j'ai rencontré avec beaucoup de plaisir. On s'était promis qu'on se reverrait plus longuement, avec plus de temps, pour développer nos idées. C'est un passionné et un entrepreneur. Avec une passion chevillée au corps, on peut le dire les choses comme ça. Il est fondateur de Elitis Group. Thierry Bièvre est avec nous.
Bonjour Sylvain, et moi aussi je suis en pleine forme.
Merci d'être avec nous Thierry, et d'ailleurs vous êtes arrivé il y a pas très longtemps, vous avez pris le TGV, parce que vous n'êtes pas parisien mais vous sillonnez la France. Merci en tout cas d'être avec nous. On va faire quelque chose, les amis, qui, voilà, juste rappeler en quelques mots, voilà, le pitch de, voilà, on va faire un rappel TKE Elevator, juste pour poser le débat. Idem pour Elitis, et on va tout de suite engager ensuite les idées sur l'innovation profession immobilière. TKE Elevator, en quelques mots.
TKE Elevator, une mission de mobilité dans les bâtiments, dans les villes. Mobilité par le biais des ascenseurs ou par le biais d'escaliers mécaniques. Bref, assurer une mobilité pour les particuliers et bien évidemment tout public.
Donc avec vous, je monte ou je descends, ou alors je vais carrément sur le même trajet, parce que vous faites aussi
les travellators.
C'est ça, les travellators.
Voilà. Les trottoirs roulants.
Les travellators ou les trottoirs roulants. J'aime beaucoup ça. Voilà, la notion de travelling, travellator. Alors, Thierry, Elitis, c'est un promoteur particulier, on peut le dire.
Tout à fait. Elitis, c'est pas simplement promoteur. Moi, j'ai inscrit au fronton de mon entreprise, quand je l'ai créé en 2003, une vocation. Et cette vocation, c'était de répondre aux grands enjeux du 21e siècle. Le dérèglement climatique en fait partie, bien évidemment, avec toute la cohorte d'événements, on va dire, qui s'en suivent. Donc Elitis, c'est d'abord une équipe d'ingénieurs, Elitis Solutions, donc dédiée à l'efficacité énergétique, à l'économie de la construction, qui travaille justement dans le secteur du bâtiment. Et c'est Elitis Immobilier, donc la transformation de cette matière grise en produits immobiliers de performance hors normes qui permettent de lutter justement donc dans le cadre de la vocation du groupe.
C'est remarquable, c'est-à-dire qu'à l'époque, vous pensiez déjà que ce métier allait vers l'impact environnemental, la maîtrise de l'empreinte carbone, l'utilisation des matériaux.
À cette époque, on avait déjà, on va dire, les conclusions du Club de Rome, on avait donc déjà des alertes donc climatiques.
On est en quelle année là ?
En 2003.
Donc on est avant la RT 2012, on est avant les réglementations environnementales, on est avant les empilages de normes, mais vous avez déjà pris conscience.
On a pris conscience, puis on a surtout pris conscience que l'ingénieur avait un rôle à jouer dans cette affaire, qu'il ne pouvait pas se maintenir dans une position simplement de résolution de problèmes, mais il fallait qu'il soit créatif, créateur, et donc qu'il permette donc de trouver des solutions qui engagent en fin de compte notre société vers plus de bien-être, plus d'efficacité énergétique, plus de bénéfices.
C'est très clair, c'est bien évidemment ce qu'on appelle plus couramment la maîtrise des usages. Et encore une fois, on va l'en développer. C'est parti pour le débat avec nos invités. Alors, le débat, c'est plutôt un échange, on va dire, de bonne intelligence. Je vais commencer par vous, Emmanuel. Est-ce que je vous m'autorisez à parler du communiqué de presse que nous avons reçu, que j'ai trouvé très, 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 très intéressant. TKE Elevator prend la première place du classement RSE de Sustainalytics, classement mondial qui a été mis en place en 2021 dans la catégorie de l'industrie mécanique. Meilleur résultat obtenu parmi les 503 entreprises de fabrication analysées. Première notation RSE complète, une étape importante depuis que l'entreprise est devenue indépendante. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? C'est quoi? Une grande marque de satisfaction, là, pour le coup.
C'est effectivement la reconnaissance d'un travail mis en œuvre depuis quelques années déjà. D'autant plus, c'est qu'il a été accéléré par l'arrivée de nouveaux actionnaires sur lesquels on s'est vraiment orienté sur cette thématique RSE d'une manière générale qui est assez large, et on va en dire quelques mots. Qui est également déployé en France, TK Elevator, c'est un groupe international, et avec une partie engagée, les équipes françaises très engagées sur cette thématique de la RSE.
Alors, anciennement ThyssenKrupp, on peut le dire. Alors, à Düsseldorf, c'est le 24 novembre, leader du marché de l'innovation dans le monde des ascenseurs, arrive en tête du classement mondial, on l'a noté, avec une note, voilà, 500 organisations à travers le monde, décerner la note à faible risque, c'est-à-dire que vous êtes classé premier. Faut juste rappeler à nos auditeurs que Sustainalytics, je sais pas si vous les connaissiez, Thierry, c'est le leader mondial de la recherche et l'innovation en matière de responsabilité sociétale et entreprise. Voilà, c'est le leader qui évalue les sociétés en fonction des risques liés à la pérennité qui peuvent avoir des conséquences importantes pour les entreprises. Vachement bien, c'est
très important d'apporter, on va dire, une connaissance à l'ensemble de l'écosystème sur la gouvernance des entreprises et comment elles entreprennent en matière d'ESG, d'ISR. Et donc effectivement, on doit aujourd'hui prouver qu'on avance, on va dire, dans ce domaine-là, notamment pour les salariés, mais également, on va dire, pour les clients et les bénéfices, on va dire, qui sont attendus pour la clientèle in fine.
Alors, on va parler d'ailleurs des normes aussi, parce que vous avez parlé d'ISR, investissement socialement responsable, vous avez parlé d'environnement social gouvernance, donc ces qualifications, on a vu la qualification de type RSE. On va prendre la première partie de notre débat sur l'innovation. L'innovation, Emmanuel Paris, n'est-elle que technique ? Quand on fabrique de la mobilité à l'intérieur des bâtiments?
Non, bien évidemment que non. Elle est aussi servicielle. Elle est technique quand on parle produit. Après, à nous de travailler en permanence sur l'innovation pour nos clients, les utilisateurs. Nous avons deux types de clients. Les propriétaires qui vont investir pour acheter un ascenseur. Et puis après, les usagers. Donc l'innovation doit être au service de, bien évidemment, des propriétaires, mais aussi des usagers au quotidien.
Donc elle ne s'appuie pas uniquement sur la dimension que technique. Donc vous n'êtes pas, je vais préciser ma question, vous n'êtes pas uniquement techno-centré, vous êtes aussi client-centré.
Nous sommes avant tout maîtrise une activité de service.
De service. Un exemple.
Dans notre activité, nous installons des ascenseurs, nous installons des escaliers mécaniques. Mm-hmm. Pour autant, l'essentiel de notre cœur de métier, c'est d'assurer le service et faire en sorte que nos équipements tombent le moins en panne, en tout cas, soient tout le temps disponibles.
Alors, la notion justement de service, elle est hyper importante. Tout à l'heure, vous avez dit Thierry, lorsque vous avez parlé de la fondation d'Elitis Group, c'était aussi la vision de l'ingénieur, dont on peut imaginer que l'ingénieur, il a le côté ingénieur. Si je vous demandais, à l'instar de ce que nous dit Emmanuel, c'est quoi l'innovation? Est-ce qu'elle n'est que technique, de votre point de vue aussi?
Alors, pas du tout, parce que la première fois que j'ai commencé à innover dans l'entreprise, ou tout au moins, on va dire, de lancer ce mouvement d'innovation, j'ai recruté dans un bureau d'études spécialisé dans la technologie et l'efficacité thermique des sociologues.
Et c'est comme ça.
Tout à fait. On a donc regardé les choses avec sous un autre angle pour renverser la table un petit peu et donc arrêter de dire comment il faut faire les choses, mais plutôt dire pourquoi et pour qui les fait-on. Et c'est ça, en fin de compte, qui a révolutionné notre capacité à introduire de la créativité, puisque avant on travaillait exclusivement sur notre savoir et non pas sur notre désir. Et à partir du moment où on a commencé à exprimer la notion de désir dans l'entreprise, on s'est dit, mais pour qui fait-on les choses? Pour un utilisateur final. Vous avez parlé tout à l'heure de la qualité d'usage. C'est ce bénéfice qui est notre quête. Et c'est ça qu'on doit conquérir. Le bénéfice pour l'usager final. En matière d'environnement, en lui donnant la certitude qu'il va pouvoir loger dans un bâtiment, un logement, qui soit résidentiel, tertiaire ou autre, qui soit le plus respectueux et avec le moins d'impact sur l'environnement en matière d'économie, pour qu'il en soit lui-même le bénéficiaire. C'est-à-dire que, quelque part, il tire les bénéfices d'un comportement qu'il pourrait avoir qui serait éco-citoyen. Donc, c'est de familiariser, vulgariser les démarches pour avoir, on va dire, une vision écologique qui soit pas punitive, mais qui soit plutôt progressiste, qui entraîne, qui familiarise, qui soit pédagogique, et puis enfin sociétal, parce qu'on a tous envie du mieux vivre ensemble, on en parle beaucoup, on le voit peu, et donc nous on essaye de le traduire dans le cadre de nos projets avec des espaces de vie commune, qui sont des espaces avec aménité, mais des espaces aussi qui ont une forte qualité de vie, et fort impact d'attractivité, où les usagers de nos bâtiments s'emparent en fin de compte de ces espaces et en font un petit peu ce qu'ils veulent.
Est-ce que la qualification d'une tour, alors je vais titrer, est-ce que vous m'autorisez à parler de la tour Danube, par exemple ?
Celle-ci, on peut en parler sans problème.
Ou sur laquelle nous avions titré une tour qui fait gagner en pouvoir d'achat. Je l'avais évaluée à l'époque, quand on avait fait notre émission de télévision, à 1 600 € de gain de pouvoir d'achat par an. Vous confirmez ?
C'est plus maintenant, puisque le prix de l'énergie a augmenté.
Donc c'est plus, maintenant.
C'est forcément plus, l'écart est relatif. Mais
donc ça veut dire qu'en fait, l'impact énergétique, plus l'occupation se développe, plus elle est intéressante pour l'usager. Vous pourriez développer ça ? Comment on fait ? C'est quoi ? Une tour à énergie positive ou passive ? C'est quoi ?
Alors, c'est d'abord un bâtiment qui prend en compte l'ensemble des éléments qui sont à notre disposition, climat, espace urbain environnant. Donc on travaille avec les éléments gratuits, la lumière, le vent, le soleil. Ça, c'est pratique. On donne aussi une notion ergonomique, puisque la qualité de vie à l'intérieur du logement va être aussi un élément essentiel d'appropriation par le locataire ou par l'usager du logement de son rôle en tant que bienfaiteur, on va dire, ou éco-citoyen pour qu'il pratique les éco-gestes. Donc ça, ce sont des éléments, on va dire, qu'on appelle de l'architecture bioclimatique et une vision anthropologique, en fin de compte, de l'usage. Et puis après, bon, il y a des technologies. On est plutôt sur des technologies low-tech, puisque moi qui dirige un grand nombre d'ingénieurs, j'ai trop souvent vu mes collègues se gratter la tête après avoir fait des installations techniques très intéressantes, somme toute, mais aussi tellement complexe qu'on en perdait le fil et on en perdait le sens. Et donc, c'était trop compliqué, on va dire, à résoudre quand il y avait une panne. Donc aujourd'hui, on essaie de faire des choses qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus utiles, et donc qui in fine, bon, rendent un réel service, à la fois dans le coût d'investissement, également dans le coût de maintenance, puisque la maintenance d'un équipement complexe coûte très cher également.
J'adore l'idée, hein. Ça me plaît beaucoup, vraiment beaucoup. Le côté low-tech, compréhension vulgarisée, pour sortir de l'entre-soi de certains ingénieurs qui pourraient créer ce qu'on appelle, je peux me permettre comme ça, des usines à gaz parfois. Non, parce que c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça me rappelle une histoire, une théorie qui s'appelle la théorie de Parkinson. On crée un environnement qui est très complexe, les personnes qui ont créé l'environnement sont parties, on ne sait plus le faire fonctionner. Voilà. Donc quelque part, ça a beaucoup de sens ce que vous dites. Vous devez boire du petit lait donc, quand vous écoutez Thierry Brenet. Je sais que c'est votre postulat de base. Hein, mais...
C'est effectivement très, très intéressant et puis très, avec beaucoup de sens. C'est toute l'ensemble de notre démarche qui était également basée pour donner du sens à nos équipes et apporter à ce que ces innovations ne soient pas juste, on va dire, une photo, mais soient bien utilisable et apporte une performance soit meilleure. Et derrière, ça nécessite une culture d'entreprise très forte qui soit orientée sur pas seulement de la technique, comme vous l'évoquiez, mais également une volonté d'apporter plus aux clients et aux utilisateurs de manière générale.
C'est rare d'entendre, alors on sait que je vous apprécie, hein, Thierry, il n'y a pas de souci, mais ce que je veux dire, c'est que c'est rare qu'on entende des promoteurs comme vous avoir ce postulat de base. Est-ce que c'est l'ADN d'Elitis, postulat ? Parce que je voudrais aussi qu'on parle de votre programme. Hein. Mmh. Vous avez combien ? 50 ? 100 tours, vous avez promis ?
100 tours à
en 2050
réaliser. Ah non, avant 2030.
2030, extraordinaire. On en est à combien aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on a deux de réalisés, deux qui sont en chantier et une dizaine qui sont dans un pipeline. Mm-hmm. Et, l'objectif, en fin de compte, est d'avancer assez rapidement. Je ne vais pas vous dévoiler, on va dire, toutes les villes, on va dire, qui sont nos villes cibles, puisqu'on a déjà avancé, on va dire, avec beaucoup de collectivités. Je peux vous parler simplement de celles où on a commencé les chantiers, donc Dijon et Saint-Étienne.
Oui, Dijon.
Les autres, je voudrais laisser donc aux élus, on va dire, la primeur, en fin de compte, de ces annonces, puisque je pense qu'ils sont relativement fiers, voire même très fiers, on va dire, d'accueillir ce type d'immeuble pour leur population et de faire la démonstration qu'aujourd'hui, on peut déjà bâtir des bâtiments qui répondent aux enjeux de 2050, alors que nous sommes en 2022.
Ok. C'est des tours qui ont quelles particularités qu'on comprenne bien ?
Alors, ce sont des tours qu'on appelle, nous, zéro facture d'énergie. Donc, ce sont des bâtiments BEPOS, bâtiments énergie positive, donc qui fabriquent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Mais on va au-delà, puisque ce qui nous intéresse, c'est de rendre l'usager bénéficiaire de ce bâtiment à énergie positive. Et en réalité, si vous prenez les labels ou voire même les normes techniques classiques, il vous reste toujours un reliquat relativement important à payer. C'est-à-dire que vous pouvez vivre dans un bâtiment énergie positive, mais vous avez toujours une facture d'énergie à payer. Donc notre objectif, en fin de compte, c'est de ramener donc cette énergie positive sur le plan technique ou kilowattheure simple à une équation économique et qui soit bénéficiaire pour l'usager. C'est comme ça qu'on va embarquer le plus grand nombre, on va dire, de nos concitoyens vers l'énergie positive. Et on essaye de le faire à coût standard de construction, donc ce qui est à chaque fois donc un effort. Et
ce qu'on appelle coût standard, juste pour que je comprenne.
Au standard de construction,
ça coûte pas plus cher, en fait,
voilà, c'est-à-dire qu'on est toujours relatif, en fin de compte, au coût de construction donc de la réglementation. C'est-à-dire que quand on a construit Danube, on était RT 2012 et donc on a fait un bâtiment zéro facture d'énergie qui aujourd'hui vit cette vraie condition, puisqu'on a 6 logements sur 10 qui vivent avec moins 36 euros de facture annuelle. Tous usages confondus, donc c'est une recette.
Extraordinaire.
Et aujourd'hui, voilà, en 2022, on va construire des bâtiments, qui sont relatifs à la RE 2020. J'irai même plus loin, c'est le siège social d'Elitis, premier bâtiment énergie positive au monde, qui est une petite tour de 5000 m² à Dijon.
Et
résilient à la RE 2020. Ouais. C'est-à-dire que quelque part, on a fait ce bâtiment sous RT 2005. Et aujourd'hui, il répond aux enjeux de la RE 2020, voire même il va plus loin, puisqu'en matière d'exploitation, on est déjà en 2050, puisqu'on est exclusivement énergie renouvelable. On chauffe au bois, on utilise l'énergie photovoltaïque.
Qu'est-ce que vous faites de l'énergie excédentaire ?
On la revend.
Vous la revendez à qui ?
Pour l'instant, on la revend. Pour l'instant, on la revend donc via, on va dire.
Vous la distribuez dans le quartier ou ?
Parce qu'on
pourrait imaginer une économie circulaire, vous voyez ? C'est-à-dire que ce bâtiment, pour être résilient, puisqu'il est empreinte dans la cité, bon, je l'ai visité, donc je peux le dire, il a une très belle forme dans la cité, il pourrait avoir un rôle aussi de distributeur d'énergie.
C'est ce qui se passe, puisque l'énergie qui n'est pas consommée est consommée, on va dire, dans les alentours.
Ça, donc, qu'elle réduit, du coup, elle permet d'avoir un accès à l'énergie moins chère, du coup, non ?
Malheureusement, non, puisque c'est pas nous qui sommes les régulateurs de l'énergie, et c'est pas nous qui sommes les fournisseurs non plus, ni les distributeurs.
À quand Elitis Énergie ?
Écoutez, il faut y réfléchir, parce que de toute façon, il va falloir aussi falloir innover pour permettre au plus grand nombre, justement, on va dire, de partager,
Et pour la rénovation énergétique aussi, parce que quand je vous entends, je me suis dit, tiens, à quand Elitis Énergie, quoi ? C'est extraordinaire.
Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on devrait déjà comprendre que dans le résidentiel neuf, dans le tertiaire neuf, on n'a pas besoin d'une énergie fabriquée à l'extérieur pour pouvoir fonctionner en autonomie.
Et ça, quelle que soit la nature de la construction ?
Quelle que soit la nature de la construction, il faut...
Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ?
Pardon ?
Dans le monde de la promotion ?
Non, pas du tout.
On pourrait imaginer, vous plaider pour que finalement...
L'énergie positive soit accessible à tous, que les technologies se mettent en place à partir du moment où
on ouvre une porte. Vous avez démontré que c'était possible.
Oui, voilà. À partir du moment où on ouvre une porte, ça permet aussi à des industriels, on va dire, de s'introduire, on va dire, dans cette brèche pour fabriquer des éléments de stockage qui soient efficaces, pour travailler sur la redistribution éventuelle, on va dire, dans le quartier, puisque tous les bâtiments ne pourront pas être énergie positive. Quand vous êtes en secteur inscrit historique, ça va être assez complexe, on va dire, de proposer une isolation par extérieur ou de changer, on va dire, certains éléments distinctifs, on va dire, d'une époque qui nous réjouissent, parce que voilà, c'est notre culture et on est très heureux, on va dire, de pouvoir croiser ces bâtiments qui nous enrichissent culturellement. Mais on ne pourra pas tous les rendre à énergie positive. Donc ces bâtiments qui vont venir contribuer vont pouvoir distribuer, on va dire, cette énergie à un moment donné et donc permettre à ces bâtiments d'être aussi eux-mêmes, on va dire, très vertueux d'une manière générale.
C'est très clair. Alors, quand vous écoutez ça, Emmanuel, bien évidemment, vous êtes, on va dire, sur la même ligne de vue, mais je voudrais qu'on... n'intègre aussi la dimension de l'innovation, de ce que vous faites à l'intérieur des bâtiments en matière de maintenance prédictive, par exemple. Parce qu'on sait, et je peux le dire moi aussi pareil, c'est que moi, quand je prends l'ascenseur, c'est vrai que je réfléchis pas. Je suis en mode mécanique. Non, c'est drôle, hein. C'est vrai qu'on a fait d'ailleurs il y a des sondages, hein, qui démontrent que quand vous arrivez dans le bureau, vous êtes en mode, vous savez, comme trajet, voiture, maison, etc. Vous êtes en mode automatique, tout fonctionne. J'appuie sur le bouton, boum, boum, ça fonctionne. On se doute pas à quel point. Et c'est vrai que quand on a travaillé sur ce programme, vous me l'avez souvent dit, et c'est vrai que c'est intéressant, le nombre de disciplines qu'il faut intégrer dans un dispositif de transport intérieur. Ben, c'est extraordinaire. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Puis surtout, la notion, vous m'avez beaucoup parlé de prévention, de maintenance, d'utilisation et de maîtrise de l'utilisation avec une technologie très aboutie qui permet justement, à la limite, avant même que les choses se créent, d'anticiper, quoi, en quelque sorte.
C'est un métier qui nécessite à la fois de la technique, et puis qui est basé sur des hommes. On peut pas du tout dissocier les deux. Donc oui, effectivement, on a travaillé sur un sujet de maintenance prédictive. On a appelé cette maintenance prédictive Max, avec un objectif fort d'amélioration de la performance. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, notre performance, finalement, c'est de permettre à ce que nos clients et usagers puissent bénéficier de leur ascenseur aussi proche que possible du 100%. Et donc cette maintenance prédictive, elle consiste en quoi? Elle consiste à aller prendre des datas sur la machine, elle remonte dans le cloud et avec un peu d'intelligence artificielle redescend avec une information en direct au technicien en disant tiens, il faut que tu ailles avant qu'on sache que l'ascenseur est en panne. Le technicien est informé et il sait avec une information qualifiée, donc il sait avec quelle pièce il doit aller sur place. Au-delà de ça, on est en train de travailler sur de la prédiction, c'est-à-dire qu'au bout de certains cycles, telle pièce doit être changée ou tel élément électronique doit être modifié. C'est ce qu'on appelle la maintenance prédictive. À côté de ça, il y a bien évidemment une dimension de formation des équipes qui doivent accompagner finalement cette maintenance prédictive, mais il y a aussi tout le travail préventif qui doit être fait, c'est-à-dire qu'en amont, nos techniciens doivent assurer la meilleure maintenance pour faire en sorte que les ascenseurs... Donc, c'est un mix entre les deux, à la fois de la compétence, mais aussi à la fois de la grande technologie.
Est-ce que, par exemple, alors c'est hyper intéressant, parce que alors c'est vrai que moi, qui ne suis pas technicien et pas ingénieur, j'avoue que parfois je m'y perds un peu... Avant même que la panne arrive, je peux la détecter. Il y a pas un paradoxe entre les deux?
Non, en fait.
Ce que vous me dites, c'est que c'est truffé de capteurs.
Oui.
C'est ça?
Des capteurs, et puis surtout, on a ce qu'on appelle une manœuvre, donc dans lequel on a toutes les informations liées à la machine, dans lequel on a tous les cycles. On sait le nombre de personnes qui ont pris l'ascenseur, on connaît le nombre de cycles, donc le nombre de montées-descentes. En fonction du modèle, on sait effectivement quel type de est-ce qu'il va falloir changer une roue, est-ce qu'il va falloir changer ceci ou cela. Donc c'est finalement basé sur du calcul et de la data. Et donc ces calculs et ces data permettent d'anticiper un changement
d'une pièce, d'un élément. Exactement. Avant que celle-ci fasse défaut. Exactement. Et qu'elle soit par exemple génératrice d'une panne. Par
oui,
exemple.
Parce que
donc en fait vous mesurez évidemment tous les éléments. Combien de composantes? Combien de disciplines quand on monte un ascenseur? Un jour, on m'avait donné un nombre de métiers absolument de fou. Il y a tout.
Effectivement, on a un nombre de métiers dans notre entreprise qui rend très riche notre activité, puisque on installe, on assure la maintenance, on fait des travaux. En fait, on a un cycle produit très 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 varié, puisqu'à la base, on va fabriquer un ascenseur. Donc bien évidemment il y a dimension marketing commerciale, puis après on va installer cet ascenseur, puis on va en assurer tout le cycle de vie jusqu'à la modernisation des ascenseurs pour faire en sorte qu'on n'est pas juste dans un métier où on change et on remplace, pas du tout, on est dans un métier où on essaye de recycler au maximum et de faire en sorte que nos pièces détachées soient changées et non pas uniquement changées mais réparées, encore une fois dans une une thématique environnementale. Donc on est sur un métier extrêmement varié qui va jusqu'à là, ce qu'on appelle aussi les petits dépannages, les petites réparations. Et ça, ça nécessite des compétences extrêmement variées, d'autant plus qu'on a des technologies extrêmement variées aussi, avec des technologies très anciennes, des ascenseurs qui ont plus de 40 ans, et puis des technologies qui sont très récentes et très poussées. La plus poussée, bien évidemment, on ne la voit pas aujourd'hui encore beaucoup, c'est le multi. On est sur un ascenseur horizontal, vertical, qui n'a plus de câbles. Donc voilà, un métier qui peut être extrêmement technologique, mais aussi...
J'ai vu qu'il y avait même des hologrammes. Vous savez, des hologrammes, c'est ce que je dis bien?
Effectivement, aujourd'hui,
on a... c'est Matrix.
Pendant cette crise sanitaire, on a beaucoup travaillé sur la notion du sans-contact. Donc, pour pouvoir rentrer dans un ascenseur avec un téléphone, vous avez un code barre, vous rentrez, ça vous permet d'ouvrir les portillons, ça vous appelle l'ascenseur et qui va vous emmener à l'étage où vous avez votre rendez-vous. Et donc, dans ces technologies, on a effectivement le sans-contact avec un hologramme qui permet d'appuyer sur un bouton et donc d'appeler l'étage. Voilà, tout ça, ça a été accéléré pendant cette crise sanitaire. C'est et génial. On a énormément innové sur ces sujets de son contact.
Vous voulez ajouter, Thierry,
parce que ça me parle. Sur ce que dit Emmanuel, parce que je trouve ça très intéressant et peut-être même qu'il n'a pas imaginé, on va dire, les perspectives que ça pouvait ouvrir. Aujourd'hui, moi qui réalise des immeubles de quatrième famille, c'est-à-dire 15, 16 étages, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une étude de trafic et donc cette étude de trafic nous montre qu'avec les technologies modernes, les ascenseurs qui montent très rapidement, on pourrait avoir un ascenseur. Néanmoins, on en met deux. Pour des raisons, on va dire, de redondance, si jamais il y avait une panne, et donc de la poursuivre le service. Est-ce que demain, cette data prédictive vous permettra donc d'économiser une cabine d'ascenseur? Donc c'est du CO2, hein. Ça veut dire que quelque part on met moins d'installations, donc on réduit l'empreinte carbone de l'immeuble puisqu'on réduit, on va dire, sa surface également, une gaine technique en moins. Est-ce que demain on peut s'attendre à ce que la fiabilité soit telle que la continuité de service soit permanente pour offrir la possibilité de réduire le nombre d'installations d'élévateurs, on va dire, dans un immeuble de quatrième famille?
Alors ça fait partie des études que nous réalisons déjà aujourd'hui, et c'est d'autant plus facile dans des tours ou des grandes tours où on évalue le trafic et effectivement on essaye autant que possible de réduire l'empreinte et l'empreinte surface lié à un ascenseur. Pour ça, et c'est une des raisons pour laquelle on a développé une technologie qui s'appelle le Twin, qui permet concrètement en fait de réduire de 30% l'empreinte et donc de réduire le nombre de cabines dans un bâtiment. Donc ça, c'est déjà le cas. Au-delà de ça, effectivement, pour aller dans votre sens, d'un point de vue sur des tours, on est aujourd'hui à même de, au fur et à mesure de l'utilisation de ces ascenseurs, c'est-à-dire qu'on va réduire le nombre de cycles à tel moment de la journée, à telle minute de la journée, en fonction du flux et en fonction du trafic, pour faire de l'économie d'énergie, ou alors pour régénérer du mieux possible et de la meilleure des manières les plus efficaces possibles. Donc oui, ça c'est déjà en fait, c'est déjà en œuvre, à la fois pour réduire la surface, comme vous l'évoquez, mais aussi pour réduire l'utilisation de l'ascenseur, donc finalement économiser de l'énergie.
Alors c'est intéressant ce que vous dites tous les deux, parce qu'il y a deux choses, vous êtes interdépendants, c'est-à-dire que vous faites des tours avec effectivement 15 étages, 16 étages, et vous, c'est votre spécialité. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, il y a une conjonction dans votre esprit, j'allais dire entre guillemets industriel, mais aussi d'une maîtrise urbaine, parce que vous avez évoqué tout à l'heure quelque chose qui me plaît beaucoup. Et je pense que c'est une réalité, c'est l'anthropologie urbaine. Est-ce que nous n'assistons pas aussi dans vos métiers à des modifications anthropologiques qui vous amènent à réfléchir? Vous, Emmanuel, vous n'êtes pas ingénieur de formation, vous êtes un businessman, vous êtes un développeur, vous êtes un créateur d'entreprise, vous êtes un gestionnaire d'entreprise, mais vous bossez en permanence, comme Thierry, avec des ingénieurs. Est-ce que vous arrivez à les faire sortir de l'entre-soi, justement, pour aller vers ce que vous dites, c'est-à-dire quelque chose qui parle à tout le monde, qui dit que, voilà, là, vous avez parlé, alors je simplifie un peu, bien évidemment, là où il faudrait deux cabines, on va en mettre qu'une, parce qu'effectivement, la techno va nous permettre d'optimiser, et en même temps, c'est vertueux, parce que je vais réduire l'empreinte carbone, et que votre postulat de base, c'est aussi d'avoir le poids carbone, donc émission de CO2, clairement maîtrisé, et c'est le sens de l'histoire, et en plus, c'est hyper cohérent, parce que comme vous produisez de l'énergie, qui devient donc, on a une énergie soit passive, soit positive, forcément, ça peut être que cohérent que vous ayez à cœur cette réduction d'empreinte carbone, Emmanuel.
Ce que vous dites là, Sylvain, c'est tout le sens de la transformation que nous sommes en train de mener pour s'assurer que l'ensemble de nos équipes soit 100% orientées par rapport aux clients, donc attentes et besoins, et non pas par rapport à ce qu'on a envie de faire et par rapport à ce qu'on sait faire. Donc effectivement, c'est tout un changement culturel que nous sommes en train de mener depuis quelques années déjà, pour faire en sorte qu'aujourd'hui on puisse apporter, en toute modestie et avec beaucoup d'humilité, justement en écoutant autant que possible nos clients, pour faire en sorte que ce que nous proposons corresponde à une attente et non pas à un sujet de R&D qui est sorti d'un bureau fou.
C'est vrai que quand on parle des ascenseurs, Thierry, c'est pas hyper sexy dans le sens où c'est quelque chose qui est automatique, qui est parfois... alors, je sais pas comment vous l'approchez, la notion du transport, mais elle doit être capitale aussi dans votre vision, et elle doit être compatible aussi à l'ADN que vous avez, hein, l'idée que vous avez dans vos tours. Finalement, vous êtes hyper proche parce que vous avez
on regarde vers le même horizon, ça c'est clair.
Parce que les projets que vous avez aujourd'hui sont des projets, et moi il y a une chose que je voudrais que vous développiez aussi, il nous reste quelques minutes pour conclure, c'est l'utilité sociale des tours que vous mettez en place. Parce que oui, il y a un peu de densité, mais cette densité est nécessaire. ZAN, aujourd'hui, ça s'est imposé à vous, comme à tous vos confrères. Hein, zéro artificialisation nette, on a tous pris conscience. Quelles sont les alternatives, justement, pour qu'on puisse relancer la nécessité de l'acte de construire, hein. Vous avez vu un article du Parisien qui a interrogé Norbert Franchon, qui est le président du groupe Gambetta, vous connaissez certainement, qui dit qu'il faut réhabiliter noblement l'acte de construire. Vous nous en dire quelques mots ?
Bien évidemment, je voudrais boucler sur la data,
bien sûr,
rapidement.
Et la donnée, d'ailleurs, qui est un peu l'artère fémorale.
Nous, c'est un des éléments essentiels qui permet aussi à l'usager, puisque tout le monde est détenteur d'un téléphone portable aujourd'hui, de maîtriser sa consommation énergétique. Donc, on a créé un soft qui s'appelle Aladdin sur l'ensemble de nos projets, qui accompagne l'usager, en fin de compte, sur la maîtrise de sa facture énergétique. Du premier jour où il rentre dans son logement, par année civile, c'est-à-dire du premier jour où il rentre dans son logement, il connaît sa facture énergétique et quasiment en permanence, il maîtrise, on va dire, en fonction, on va dire, de son usage, sa facture d'énergie à l'année. Ce qui fait qu'en fin de compte, puisqu'il la maîtrise, puisqu'il a l'information, mais en fin de compte, il devient éco-citoyen. Voilà, donc je termine avec la data. Concernant l'anthropologie urbaine et la nécessité, en fin de compte, de
rétablir l'acte de construire, la noblesse de construire.
Aujourd'hui, on a besoin, on va dire, de limiter l'étalement urbain. On a besoin de recréer différentes formes de densité. Je ne dis pas simplement une seule forme de densité, mais la tour est intéressante, considérant, on va dire, que le
parce que vous n'êtes pas pour l'étalement urbain.
Bah, je suis totalement contre. Je considère que... Enfin, moi qui vis dans une petite métropole de province,
oui, quand même.
Je m'aperçois qu'aujourd'hui, bah, c'est bien... quand même assez compliqué pour ceux qui vivent dans les villages ruraux, périurbains, bah, de faire ces allers-retours donc avec le coût de l'énergie. Donc pour certains, bah, voilà, c'est des gens, on va dire, qu'on a envoyés à l'extérieur parce que le coût de la construction n'était pas adapté, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de terrain. Parce que, voilà. Donc aujourd'hui, on a nécessité, on va dire, de réfléchir, on va dire, au bon usage de nos sols. On a des friches, on peut construire sur ces friches avec beaucoup d'efficacité. On a de la mobilité, il faut construire en densité là où on a de la mobilité douce. Et donc, il faut avoir un autre regard, on va dire, sur la hauteur, parce que la hauteur, c'est aussi la vue, c'est la qualité de vie, c'est une expression architecturale.
Hauteur fait peur. Enfin, vous avez raison d'en parler, parce qu'il y a un climat quand même, on dit la hauteur, les tours.
Oui, mais voilà. c'est, je pense que c'est franco-français. Pour ceux qui voyagent beaucoup, ils se percevront, on va dire que souvent les tours sont habitées par les gens qui sont les plus nantis et pas forcément les populations les plus défavorisées.
C'est très juste.
Et aujourd'hui, la qualité du travail réalisé par les architectes, qui sont capables, on va dire, justement, d'écrire, on va dire, d'être les témoins d'une société. Ben, eux peuvent apporter ce message, eux doivent le porter, eux doivent le grandir. Rétablir, en fin de compte, cette nécessité de retrouver, on va dire, un peu de hauteur. Je ne dis pas faire des IGH, mais au moins faire des immeubles de quatrième famille. Pour ce qui concerne la France, 50 mètres au dernier plancher, ça reste un épanelage urbain, on va dire, qui fait pas peur et qui... par contre, donne de la qualité de vie. Vous savez, quand vous êtes dans votre séjour à 40 mètres de haut et que vous avez une baie qui fait 7 mètres par 2,50 mètres, eh bien, vous avez l'horizon comme jardin. Donc, vous n'avez même pas besoin d'acheter une tondeuse. C'est quand même pratique.
J'adore.
En fin de compte, aujourd'hui, on peut tous vivre dans un pavillon.
Ça s'appelle une punchline.
Oui, mais l'objectif, en fin de compte, c'est d'essayer de trouver, on va dire, un parcours résidentiel qui permette à nos concitoyens de vivre, de revivre la tour comme un élément de qualité, comme un élément de partage et comme un élément aussi de mieux vivre ensemble, puisque la tour, ça peut être aussi, sans être communautariste, une communauté de gens qui apprécient vivre ensemble, qui se retrouvent là où nous, ce qu'on appelle des cœurs sociaux, c'est-à-dire des aménités, on va dire, de rencontres. Ça peut être un jardin, ça peut être un rooftop, ça peut être un share living room, qu'on appelle ça, c'est-à-dire un endroit où on vient prendre un repas en commun, voilà, où on peut taper la discute, où on peut jouer aux cartes, on peut garder les enfants de son voisin. Enfin, voilà, c'est ça qui est important. C'est retrouver, en fin de compte, là où la vue, la qualité de vie fait du sens, là où on peut s'évader aussi, puisque quand on regarde l'horizon, on peut aussi être dans ses pensées. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut rééquilibrer, et les architectes, voilà, ont un grand rôle à jouer. Les équipes avec lesquelles on travaille prennent beaucoup de plaisir, en fin de compte, à écrire, à donner un nouveau vocabulaire à ces bâtiments.
Et en plus, vous devez certainement aussi quelque part faire rêver dans le bon sens du terme les élus qui vous accompagnent dans leur territoire. En tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de lyrisme dans ce que vous dites. C'est vraiment très agréable à entendre. Voilà, pour conclure, Emmanuel Paris, quand vous écoutez un homme passionné comme Thierry Bièvre, je sais que ça correspond tout à fait à votre ADN. Bien évidemment. Est-ce que, de votre point de vue aussi, bien évidemment, toutes ces technologies qui sont, en fait, finalement, où on bascule, on le sait, de la maîtrise des ouvrages à la maîtrise des usages, donc, et du service, on est vraiment dans le contemporain, là?
Ça fait partie de notre mission, effectivement, de devoir à faire en sorte que tout ce qu'on propose soit dédié aux usagers, qu'on soit fabricant, que ce soit... On doit proposer et on doit avoir une approche la plus orientée pour nos usagers. C'est le sens de notre mission, finalement, c'est de déplacer des personnes qui ont soit des problèmes de mobilité, soit pas du tout, mais en tout cas, c'est effectivement d'assurer une mobilité. Je rejoins tout à fait Thierry dans le fait qu'on est en train de vivre une mutation en termes de bâtiments et qu'il soit avec une énergie positive ou qu'il soit orienté sur l'usage. On voit qu'il y a eu quand même des changements phénoménaux sur ces dernières années, avec aussi des matériaux nouveaux, avec des technologies nouvelles. Et c'est ça aussi, c'est toutes ces innovations qui permettent au fur et à mesure d'apporter... Et soit une meilleure vue, soit qu'on planque sa tondeuse. Mais effectivement, on voit en tout cas des changements que, à titre personnel, je trouve vraiment passionnants. On voit des nouvelles tours qui sortent avec des usages d'un côté beaucoup plus mixtes qu'on pouvait l'avoir jusqu'à maintenant, des usages avant
oui, c'est pas les tours tertiaires. C'est pas les tours qu'on a connues. Enfin voilà, je dis à nos auditeurs, voilà. Parfois, il faut un peu ne pas flipper. Vous avez raison de le rappeler. Il y a un côté franco-français, vous avez raison, tout à fait là-dessus. C'est qu'effectivement, on a cette image des tours des années 70, vous savez, des villes neuves, des grandes villes aménagées, Saint-Quentin, des villes où d'ailleurs je suis né, puisqu'on y a grandi. C'est pas du tout ça. Aujourd'hui, c'est vraiment des morceaux de ville. D'ailleurs, je prends Singapour comme exemple, juste parce que c'est un peu la tarte à la crème, mais il y a des tours à Singapour qui sont extraordinaires. C'est des bassins de vie. Des jardins suspendus, des écoles, de l'hôtellerie, enfin, c'est assez remarquable. Et là, c'est le sens de l'histoire.
Le sens de l'histoire, Le Corbusier avait déjà inventé ce concept il y a quelques années, avec la Cité Radieuse, notamment à Marseille. Donc on voit qu'aujourd'hui, avec des technologies complètement différentes, on arrive à avoir des usages qui sont augmentés, on va dire, par rapport à cette période. Effectivement, on vit une période très, très intéressante à tous ces égards, et notamment égard au titre d'aujourd'hui sur l'innovation. On voit bien qu'on est en plein cœur de ce sujet pour un meilleur usage, mais aussi pour finalement une société un petit peu différente.
Moi, je suis très heureux pour cette émission parce qu'en fait, on a parlé d'innovation autrement qu'en parlant de données, de data, de techno, etc. Mais on a beaucoup parlé des hommes, des humains, de ceux qui sont l'objet central de toutes vos préoccupations. Quelques mots de conclusion, Thierry Bièvre. La punchline de Thierry Bièvre.
La punchline.
Si on devait résumer en deux phrases.
En deux phrases.
Ou en trois mots. Enfin, voilà, vous avez le choix. C'est un peu le questionnaire à la
poste. Je n'avais pas préparé la punchline de fin, donc, mais je, voilà, enfin, aujourd'hui, les champs du possible sont complètement ouverts. Il faut simplement qu'on renverse la table, qu'on change de logiciel, qu'on travaille de manière transdisciplinaire, multidisciplinaire, qu'on s'associe. Moi, je travaille beaucoup sur le management latéral de la performance énergétique et environnementale. Alors, ça fait plus que trois mots.
Mais
voilà, l'innovation, elle est aussi dans notre façon de nous comporter entre nous, entre acteurs de l'écosystème de la construction, pour faire mieux. Pas simplement, on va dire, de se regarder un petit peu, avec un business model, un peu agressif, alors qu'on a tout intérêt à construire ensemble, parce que c'est pour nos enfants qu'on bâtit.
Ça, c'est une très belle conclusion. Emmanuel.
Moi, je voulais remercier Thierry pour cette intervention, parce qu'on est, pour moi, on a travaillé sur le sens. En tout cas, quand j'entends Kerbiev, on est vraiment sur le sens de, et c'est ce qui fait que nos équipes et l'ensemble des entreprises arrivent à se mobiliser au-delà de ce qu'elles savent faire d'une manière usuelle. Donc, je suis très heureux d'avoir pu partager cette émission avec Thierry et bien évidemment, comme d'habitude, vous, Sylvain.
Merci beaucoup, Emmanuel, et merci aussi à TKE Elevator de nous laisser la possibilité, justement, d'interpeller l'intelligence, d'interpeller l'envie, d'interpeller aussi la passion de ceux qui font notre vie au quotidien, puisque l'urbain, c'est notre vie au quotidien, avec une place centrale, presque une vision presque maslonienne aussi de notre cité, de la société. Ce sont les promoteurs immobiliers qui, loin qu'on puisse le penser, sont beaucoup plus affûtés sur la maîtrise de vos besoins, de nos besoins, et ça, c'est un sujet important, avec justement des promoteurs éclairés, ce que vous êtes, Thierry Bien, mais je peux le dire sans aucun embâche, puisque je ne vous connaissais pas alors que j'ai déjà préparé des dossiers à la télévision pour vous, et je trouve ça remarquable qu'on puisse lier le pouvoir d'achat, remarquable qu'on puisse maîtriser le poids énergétique, l'impact carbone, donc à la fois du subjectif au collectif, donc de l'objectif au subjectif, l'intérêt personnel, mais aussi l'intérêt général, c'est ce qui vous caractérise. Elitis Group, c'est sur Internet. Si vous voulez en savoir plus, on va certainement d'ailleurs beaucoup en communiquer. Ce qu'on sait, c'est qu'on a une tour qui est en construction actuellement. Elle est à deux construire. Alors, Saint-Étienne et
Dijon.
On va pouvoir suivre les reportages. Je pense que, vu que je vais souvent à Dijon, on connaît pas mal de monde en commun, puisqu'on a eu les plaisirs avec notre ami Olivier Marin du Figaro d'avoir les clés de la ville remis par François Rebsamen. Alors là, pour le coup, vous avez vraiment de bol. On a un maire bâtisseur.
Exact.
Et successivement réélu. Voilà. Merci à François Rebsamen. Merci Emmanuel Paris. Je rappelle que vous êtes le président de TKE Elevator France. Merci Thierry Bièvre, fondateur de Elitis Group. À quand Elitis Energy? C'était la question que je vous ai posée tout à l'heure. J'espère qu'on verra le jour aussi par rapport à ça. Vous reviendrez avec plaisir, j'espère, sur les ondes de Radio Immo. Arrêt à tous les étages, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour un numéro où on va s'arrêter à un étage. On vous en laissera la surprise, puisque Arrêt à tous les étages, c'est s'arrêter et découvrir un univers avec nos amis de TKE Elevator France. Ce podcast est à réécouter sur l'application de Radio Immo, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez liker, commenter et partager, ou contacter ou aller sur les sites de nos participants. Bonne journée à vous.
Arrêt à tous les étages. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.